Nous prenons nos Bibles dans le livre de Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, du verset 10 au verset 12. Deutéronome 6, de 10 à 12. Nous lisons « L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. » Verset 12, celui qui nous intéresse. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Voilà ce que le Seigneur dit à Israël. Dieu parle à Israël, il fait une promesse. Et Dieu renouvelle sa promesse en disant, tu iras dans un pays que tu n'as pas bâti, parce que c'est moi qui t'y emmène, dans des maisons que tu n'as pas remplies. Tu bénéficieras de l'eau des citernes que toi tu n'as pas puisée. Mais Dieu donne un avertissement ou une mise en garde au verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Voilà ce que Dieu dit à Israël. Il dit, lorsque tu vas bénéficier de toutes ces choses que je te donne, fais attention, n'oublie pas d'où toutes ces choses viennent. Quand tu jouiras de toutes ces choses, quand tu te rassasiras. Alors j'ai médité en me posant la question, pourquoi Dieu dit quand tu mangeras et te rassasiras? Parce que Dieu sait que lorsqu'une personne a mangé et rassasié, déjà au sens littéral, la personne n'a qu'une seule envie, c'est de se divertir. Qui peut, après avoir bien mangé, faire un déménagement? Il ne pense pas à ça, il pense à se mettre devant la télé et à se reposer, à s'assoupir. Et Dieu dit, lorsque tu auras bien mangé et que tu te seras rassasié, attention, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de la servitude. Dieu met en garde le peuple. Il dit, c'est moi qui a fait le travail. C'est moi qui t'a emmené en ce lieu-là. Et Dieu est conscient que l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, a tendance à oublier lorsqu'il est dans l'aisance, lorsqu'il est dans la satisfaction matérielle, lorsqu'il est dans une stabilité, eh bien, l'homme, humainement, naturellement, aura tendance à oublier Dieu. Voilà pourquoi il dit attention, n'oublie pas. Lorsqu'on parle à une personne, on rappelle une chose à une personne plusieurs fois, c'est parce que on a peur que cette personne la oublie, parce que l'information est tellement importante. Alors on rappelle sans cesse, et c'est ce que Dieu a fait avec Israël, en instituant les fêtes. Le but de Dieu, c'était qu'Israël se souvienne que c'est Dieu qui l'a délivré, c'est Dieu qui l'a libéré. Chaque année, Israël devait faire des sacrifices, il devait faire des fêtes pour se souvenir que c'est Dieu qui l'a délivré. C'est cela. Mais le but de Dieu, par-dessus tout, c'était d'être à la première place au milieu d'Israël. Le thème de notre exhortation de ce soir, c'est « Quelle place donnes-tu à Dieu ?» Dans ce que nous avons lu, on a vu Dieu met en avant les richesses, les bénédictions. Tout ce qu'Israël va recevoir, va avoir comme bénédiction. Et Dieu dit à Israël « Attention, parce que ces choses-là, si tu les gères mal, eh bien ces choses-là prendront ma place. » Voilà pourquoi Dieu a dit à Israël, fais attention, lorsque tu vas te réjouir, lorsque tu vas jouir de toutes ces choses, n'oublie pas que c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a donné cela. Le thème c'est quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Combien de personnes n'ont pas changé du jour au lendemain lorsque leur vie a changé? Je regardais le reportage d'une personne qui a gagné au loto. Et bien du jour au lendemain, il a continué à aller au travail, mais il allait au travail pour voir ses collègues, il n'allait plus pour avoir le salaire à la fin du mois, son SMIC, parce qu'il est millionnaire. Et finalement, il est allé voir son patron pour dire, bon, c'est bon, allez, c'est fini, j'arrête. J'arrête de travailler. Et on raconte l'histoire de cet homme. Lorsqu'il a eu ses millions, bien, sa vie a changé. Les désirs ont changé, alors que les désirs d'avant, c'était d'aller à Leclerc s'acheter peut-être des glaces ou d'acheter ci, de regarder le prix 3 euros, 2 euros. Et là, tout de suite, les désirs changent. Les fréquentations aussi changent. Parce qu'on ne parle plus le même langage avec les autres. Parce que lorsque je prends rendez-vous avec le conseiller à la banque, eh bien, le conseiller ne te considère plus de la même façon. Donc en fonction de ce que tu as, de ce que tu reçois, de ce que tu es, eh bien, ta vie change aussi. Et Dieu dit à Israël, fais attention, lorsque tu auras acquis toutes ces choses, lorsque tu auras mangé, lorsque tu vas te rassasier, n'oublie pas l'Éternel. Et ça c'est le piège dans lequel beaucoup en tant qu'humains, le thème de notre exhortation, c'est pour ça que c'est une question, c'est pour méditer, pour chacun là où nous sommes, dire, ben, quelle est la place? À quelle place j'ai mis Dieu dans ma vie? Et nous allons voir aussi les implications. Si Dieu est à la première place, ben, il y a des conséquences. Si Dieu est à la deuxième place, ben, ça se verra aussi. Nous lisons Apocalypse au chapitre 2, l'histoire de l'église d'Éphèse. Apocalypse 2. Apocalypse, chapitre 2, du verset 1er au verset 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà ce que le Seigneur dit à cette église. Il dit à cette église, eh bien, je connais ton travail. Et la lettre qui est adressée à cette église d'Éphèse, c'est aussi une lettre qui est adressée à chaque chrétien, personnellement. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Je connais ta persévérance à démasquer ceux qui ne sont pas de moi. Je connais ce travail que tu fais. Mais il dit, j'ai un problème. Ou le problème que tu as envers moi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Pourtant, lorsque nous lisons les éloges que le Seigneur fait, dans la Bible, il y a très peu de personnes dans la Bible qui bénéficient des éloges du Seigneur. Très peu. Et voilà, le Seigneur fait des éloges à cette église en disant, tu es fidèle, tu travailles bien, tu démasques les faux, tu aimes la vérité, tu persévères. Mais j'ai un problème, c'est que tu as abandonné le premier amour. En d'autres termes, je ne suis plus à la première place dans ta vie. Je ne suis plus à la première place. De la même manière, on peut voir un chrétien qui est actif dans les choses de Dieu, mais en réalité, dans le cœur, le Seigneur n'est plus à la première place. Ce n'est qu'une apparence. Et le Seigneur donne un avertissement. Il dit, attention, il y a un chandelier qui repose sur toi. Eh bien, fais attention parce que si tu continues, j'ôterai les chandeliers. À moins que tu ne te repentes. Voilà ce que le Seigneur dit. La question c'est, quelle est la place du Seigneur dans ta vie? Quelle est la place du Seigneur? C'est une méditation personnelle. Et je pense que si on est sincère, si on est honnête, on connaît la réponse. On connaît la réponse. Quelle est la place du Seigneur dans ta vie? Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour que cette église en arrive à ce point-là? Eh bien, cette église est devenue parfaite. Cette église, quand je dis parfaite, au sens humain, dans l'organisation, dans la façon de travailler, dans la façon d'organiser les choses, dans les réunions, dans la persévérance, elle était parfaite aux yeux humains. Et c'est ce que le Seigneur dit, il ne dit pas le contraire. Mais il dit, toutes ces choses que tu fais, l'amour, le véritable amour, l'amour que tu avais pour moi, le premier amour c'est quoi? C'est l'esprit de sacrifice pour Dieu, où on ne regarde plus à notre fatigue, mais on regarde à l'intérêt de Dieu. Le premier amour, c'est ce qu'on voit pour une mère. Hein. Une mère, lorsqu'elle porte son enfant, que l'enfant soit malade ou qu'elle-même elle soit malade, elle veille. Elle veille sur l'enfant. Elle se prive elle-même, mais pour le bien de l'enfant. C'est cet amour-là qui est désintéressé. Voilà le terme. Voilà le terme. Et le Seigneur dit à cette église, tu as perdu cet amour-là. Tu commences à fonctionner, mais de manière mécanique. Les gens voient le travail que tu fais, mais en réalité, au fond de toi, tu n'as plus l'amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est cette joie qu'on a. On prend plaisir de parler avec Dieu. On prend plaisir de parler avec Dieu. La prière n'est pas un fardeau. Mais combien d'entre nous ici, si on est sincère, combien pour qui la prière est un fardeau? On le voit le mercredi. On le voit le mercredi pour ceux qui viennent, les courageux. Encore une fois, je dis que nous ne visons personne, mais c'est une introspection pour dire, Seigneur, le Seigneur dit à cette église, il ne dit pas que je te rejette, il dit à cette église, regarde ton état. Mais moi, si je te parle, c'est pour que tu te repentes, que tu dises, Seigneur, je n'ai plus le goût, je n'ai plus la force, je n'ai plus l'envie, alors donne-moi cette envie-là. C'est ça le but de cette prédication d'aujourd'hui, c'est ça. Une fois que le diagnostic est posé, une fois qu'on voit notre situation, ce que le Seigneur dit, voilà ton état, il dit, voilà, je te propose une solution. Quelle est la place du Seigneur? Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Alors le premier point, c'est simple, c'est Dieu veut la première place. Nous lisons Exode au chapitre 20, ce que le Seigneur dit. Exode chapitre 20. Exode 20, 1 à 3. Exode 20, 1 à 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voilà ce que Dieu dit à Israël. Il dit, « C'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. » C'est ce qu'on a lu dans Deutéronome 6. Et il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ce que le Seigneur dit à Israël ici, c'est encore valable à nos jours. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors bien évidemment, quand on dit ça comme ça, pour tout chrétien, on se dit, mais oui, l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel seul est Dieu. Mais cela va se manifester aussi par notre vie. Cela va se manifester aussi par les choix que nous allons faire. Et dans les choix, on saura qui est ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aujourd'hui, il y a des humains qui ont pour Dieu des humains, leurs semblables, la femme va avoir pour Dieu son mari. Le mari va avoir pour Dieu sa femme. Alors quand on dit comme ça, on se dit, mais comment est-ce possible? Mais ce sont des réalités. Il y a des gens qui ne vivent plus pour Dieu. Ils vivent par rapport au regard de son mari ou de sa femme. Lorsqu'on fait un reproche, on dit quelque chose qui de désobligeant, on est malheureux, on est triste. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et beaucoup marchent, ils professent, ils disent, l'Éternel est mon Dieu. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, il y a des choses, petit à petit, qui prennent la place de Dieu. Ça peut être le travail. Ça peut être une bénédiction que le Seigneur nous accorde. C'est ce qu'on a lu dans Deutéronome 6, où Dieu dit, attention, les maisons que tu vas occuper en là où je t'envoie, ce n'est pas toi qui les as remplies. Les citernes remplies d'eau, ce n'est pas toi qui les as remplies. Alors il dit, lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Fais attention que ces bénédictions-là ne prennent ma place. C'est ce que Dieu est en train de dire. Et là, il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors la question ce soir, c'est qu'est-ce qui, dans nos vies, petit à petit, prend la place de Dieu? Qu'est-ce qui, dans nos vies, a de l'importance? Au point de nous mettre en conflit avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il y a des choses dans la vie de tous les jours où on sent que le Seigneur nous demande d'abandonner avec cette chose-là, mais on fait semblant parce que ça a pris une place. Et Dieu est contre cela. Quelle est la place que nous accordons au Seigneur dans nos vies? Nous allons voir l'histoire d'un homme qui aimait Dieu. L'histoire d'un homme qui a fait des sacrifices aussi pour le Seigneur. Et Jésus a même approuvé l'attitude de cet homme. Mais il dit à cet homme, tu as un problème. Nous allons voir c'est quoi ce problème. Luc, au chapitre 18. Luc, au chapitre 18. Donc, c'est une histoire que nous connaissons. C'est l'histoire de l'homme riche. Luc 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà cet homme qui vient voir le Seigneur. Il dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter du ciel? Jésus lui parle de la parole, de la loi. Il dit, maître, tout ce que tu dis, j'observe ces choses. Et Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes comme richesse, ce que tu considères comme étant tes richesses, ton identité, ta force, sois capable de renoncer à ça pour me suivre. Et là, on nous dit, l'homme était tout triste. Il est reparti triste. Alors le problème de cet homme, c'était quoi? C'est que cet homme aimait Dieu, mais cet homme aimait aussi ses richesses. Cet homme, quel était son problème? C'est que cet homme avait 2 mètres. Cet homme avait 2 mètres. Il avait l'Éternel comme son maître, mais il avait ses richesses comme son maître. Mais le problème, c'est quoi? Quand on a 2 mètres, un jour ou l'autre, on sera forcé, malgré nous, à prendre position les événements de la vie. Dieu permettra aussi ces événements pour sonder notre cœur, pour manifester que là, mon fils, là, ma fille, le travail a pris tellement de place. Le sport a pris tellement de place. L'argent a pris tellement de place. La famille a pris tellement de place. Le nom de la famille, qui constitue une richesse, une fierté, a pris tellement de place. Et le Seigneur est clair, hein, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ce n'est pas possible. Pour les plus habiles, ils vont réussir à jongler entre les deux. Mais viendra un temps où on devra prendre une décision. Viendra un temps. Et c'était le cas de cet homme qui avait deux maîtres. Jusque-là, il arrivait à jongler, attaché à ses richesses, mais en même temps prendre un petit peu pour aider les pauvres. En même temps, obéir à la loi. Tout allait bien. Jusqu'au jour où il est allé voir le Seigneur. Et là, le Seigneur lui dit, tu as un problème. Quelle est la place du Seigneur dans nos vies? À quelle place nous mettons le Seigneur dans nos vies? C'est ça la question. Et cet homme, malheureusement, le texte ne nous dit pas qu'il a tout vendu et il a suivi Jésus. Le texte ne nous dit pas cela. On nous montre que cet homme est resté sur sa faim, ou le Seigneur est resté sur sa faim. Il espérait peut-être que cet homme dise, Seigneur, ce que tu me demandes est trop difficile. Seigneur, ce que tu me demandes est compliqué. Aide-moi. Comment je peux faire? Mais cet homme, malheureusement, est parti. Il est parti. Et ce texte nous montre qu'on peut aimer Dieu. On peut être attaché à Dieu, mais en même temps, être attaché à quelque chose. C'est quoi un maître? Un maître, c'est quelqu'un ou quelque chose qui a autorité sur nous. C'est ça un maître. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, l'autorité que ce maître-là a va se manifester. Il te dira, fais les choses de cette manière-là, même si tu résistes, mais un jour ou l'autre, puisqu'il a autorité, tu finiras par obtempérer, par obéir. C'est ça, le danger, le piège. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme-là ce jour-là. Ayant le Seigneur comme maître, ayant les richesses comme maître, il a préféré obéir, il s'est vu, il s'est imaginé. J'ai toujours été connu comme quelqu'un d'aisé, ne manquant de rien, vivant dans l'abondance. Et même, j'utilise ma richesse pour aider les autres. Alors, on se fait toutes sortes d'arguments. Mais le vrai problème, c'est que cet homme, finalement, s'est soumis au désir de son maître qui est l'argent. Quelle est la place du Seigneur dans nos vies? Le Seigneur est-il à la seconde place? Le Seigneur est-il à la troisième place? Combien ne font-ils pas de projets? Et pense au Seigneur ou pense à prier une fois avoir pris la décision. Combien? On fait des projets, on fait, comme on nous dit souvent, il y en a qui, comme une personne qui témoignait, il disait, moi j'aime le Seigneur, j'abandonne tout pour le Seigneur. Mais en ce qui concerne le choix de ma femme, là, Seigneur, laisse-moi le choix. Alors c'est anecdotique, on peut rire, mais en réalité, quelquefois c'est ce qui nous arrive aussi. Dans les choix de tous les jours. Parfois remplis de convoitises, poussés par une convoitise, on fait le choix, on dit, bon Dieu, même si dans le cœur on sait que bon, c'est pas ça que le Seigneur veut, mais on le fait quand même. Mais le problème, c'est que en agissant comme ça, on ouvre une porte au diable, au péché. Et finalement, on est lié. Finalement, on se retrouve même à pécher parce que à l'origine, on a désobéi à ce que le Seigneur voulait. Et cet homme s'est retrouvé avec deux maîtres. Et malheureusement, il en a choisi un. Et c'est ça la réalité. À quelle place nous mettons le Seigneur dans nos vies? À quelle place nous mettons le Seigneur? Nous allons voir l'exemple d'un homme. Cet homme a été béni par Dieu. Il a attendu pendant longtemps d'être béni. Mais lorsque le Seigneur l'a béni, voyons ce que cet homme fait. Nous lisons dans Genèse au chapitre 22, c'est l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham. Genèse 22, à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sela son âne, et prit avec lui les deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Voilà l'histoire d'Abraham. Comme on disait tout à l'heure, Abraham a attendu la réalisation de cette promesse que son fils Isaac arrive pendant très longtemps. Très longtemps, il a attendu cette promesse. Mais avant ça, il a été éprouvé de plusieurs manières. Il a quitté son pays, là où il était bien, où il avait ses attaches, sa famille. Et j'aime beaucoup le verset 22, verset 1er, chapitre 22, verset 1er, on nous dit, après ces choses, Dieu mit encore Abraham à l'épreuve. Donc il a connu beaucoup de situations, d'épreuves. Et là, Dieu lui dit maintenant qu'il a le fils. Dieu lui dit, va, tu vas me sacrifier ton fils. Et on nous dit qu'ils ont marché. Pendant 3 jours. Donc, pendant 3 jours, Abraham, dans sa tête, se pose des questions. Abraham, dans sa tête, réfléchit. Mettons-nous à la place d'Abraham. C'est Dieu qui te parle. Il te dit, ce fils que tu as, Isaac, eh ben de lui naîtra une grande postérité qui sera bénie. Toutes les nations seront bénies par lui. Et dans le même temps, Dieu lui dit, eh ben, c'est ce fils-là que je veux que tu me donnes aujourd'hui. En holocauste. Quelle contradiction! Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'est vraiment le fils de la promesse? Mais en même temps, il se dit non, ça ne peut pas être Ismaël parce que Dieu n'a pas voulu que je reste avec Ismaël. Alors voilà toutes ces questions qui arrivent dans la tête. Mais on nous dit dans le livre d'Hébreux qu'Abraham, en allant sacrifier son fils, il s'est résolu à une chose. Comme Dieu ne ment pas, donc moi je sacrifierai mon fils, mais Dieu le ramènera à la vie, il espérant la résurrection. C'est ce qu'on nous donne comme détail. Mais c'était difficile pour lui. Alors ce que nous voulons souligner là, le thème c'est quelle est la place que nous donnons à Dieu dans nos vies. Abraham, le poids du sacrifice que Dieu lui demande était tellement puissant, tellement fort. Parce que sacrifier son fils, c'était comme se tuer lui-même. C'était comme s'il avait finalement attendu aussi longtemps, jusqu'à 80 ans, pour rien. Regardons un peu ce que Dieu demande à Abraham. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile. Dieu ne connaissait-il pas l'amour qu'Abraham avait pour lui? Il connaissait, il le savait. Dieu le savait. Mais ce que Dieu a voulu, c'est que Abraham obéisse. Et en obéissant ainsi, sans discuter, Dieu dit à Abraham, voilà, arrête. Il envoie l'ange et dit, maintenant, je sais que tu m'aimes, je sais que tu crains Dieu. Je comprends en quelque sorte que, Abraham, malgré que je t'ai béni, tu n'as pas pris cette bénédiction-là pour t'enorgueillir. Malgré que je t'ai béni, quelle bénédiction? Eh bien, tu es prêt à vivre comme si tu n'avais pas cette bénédiction-là. Finalement, tu n'as pas changé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Combien n'ont-ils pas changé une fois que leur situation a changé? Combien n'ont-ils pas changé? On entend des témoignages, même parfois des joueurs de foot qui étaient dans certains quartiers, dans les banlieues à Paris. Là. Mais maintenant qu'ils sont millionnaires, c'est fini, c'est terminé. On trie les amis. On dit, ah lui, c'est un parasite. Lui, il vient pour mon argent. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. L'humain est comme ça, il change en fonction de la réalité. Eh bien, il change. Il va se retrouver avec les personnes avec qui il parle le même langage. Combien ne changent pas? Mais nous rigolons de cela, mais parfois nous nous comportons de la même manière quand Dieu nous bénit. Seigneur, je veux un enfant. Voilà que l'enfant est là. Mais ma soeur ou mon frère, on ne te voit plus. Ah, tu sais, être papa, c'est, ça change la vie, comme il y a quelqu'un qui aime beaucoup me dire, ça change la vie. Et cette attitude-là, le Seigneur est triste. Il est triste. Si le Seigneur nous bénit, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut qu'on comprenne qu'il est plus important que la bénédiction qu'il nous donne. Parce que la bénédiction, il peut la donner, il peut la reprendre. Il peut la donner et la reprendre. Ce n'est pas ça le plus important pour Dieu. Le plus important, c'est quelle est la disposition de ton cœur. C'est ça. Et comme j'ai dit, si le Seigneur est à la première place, eh ben on sera prêt à faire des sacrifices qui sont lourds, qui font mal à la chair, qui nous coûtent. On se rappelle l'histoire de David lorsqu'il cherche un champ pour offrir des offrandes, des holocaustes à Dieu. On lui donne un champ gratuitement. Il dit non, mais comment ça? Dieu a une valeur pour moi. Dieu a de la valeur. Moi, je ne peux pas prendre un champ gratuitement pour louer mon Dieu. Non, il faut que j'achète un champ. Il faut que je prenne quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui me coûte. Et c'est ça. C'est ça. Et combien lorsqu'ils sont bénis, ils tournent le dos à Dieu. Je pense que nous nous connaissons. Si nous sommes sincères, le but de l'exhortation, c'est nous dire, comme le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, regarde ta situation. Alors, repens-toi. Dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai perdu l'amour que j'avais pour toi autrefois. J'ai perdu ça. Il y a des bien-aimés lorsqu'ils étaient grands maîtres au chômage. Toujours disponible pour le Seigneur. Maintenant qu'il y a le boulot, on dit, j'ai pas le temps. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Lorsqu'il faut faire des heures sup au travail, là, il n'y a pas de problème. On voit notre intérêt derrière. Et lorsque la situation change, on dit, bon, le Seigneur, c'est quand je... Bon, allez, ça sera le dimanche. La semaine m'appartient et puis le reste, c'est à Dieu. Et voilà l'attitude d'un homme. Dieu le bénit. Une bénédiction qu'il a attendue depuis très longtemps. Mais il reste le même. Il continue à aimer Dieu. Dieu est même surpris de la réaction d'Abraham. Il dit non, arrête. Parce que maintenant, je vois que tu me crains. Je vois que tu m'aimes. Jusqu'au point de te tuer toi-même. Parce que, comme nous l'avons dit, sacrifier Isaac, c'était mourir aux promesses de Dieu. C'était aussi ne pas accepter de ne pas avoir un héritage derrière soi. de ne pas avoir une descendance. C'était tout cela en même temps, beaucoup d'enjeux. Mais pour Abraham, ce qui importait, c'était l'amour pour son Dieu. Alors le conseil que je nous donne, que les bénédictions que nous avons ne nous changent pas. Que ce que le Seigneur nous donne ne nous change pas. Utilisons ces choses, au contraire, pour aimer davantage le Seigneur, pour servir davantage le Seigneur, pour manifester la reconnaissance envers le Seigneur. C'est cela. Quelle est la place que tu accordes à Dieu? La réponse, elle est personnelle. Mais par l'exemple d'Abraham, on voit que si on accorde de l'importance à Dieu, eh bien on est prêt à tout perdre pour lui. Les amis de Daniel, ils se retrouvent devant le roi. Le roi dit à ces gens, écoutez, on fait un arrangement. Parce que j'entends dire que vous refusez de vous prosterner devant la statue que j'ai érigée. Eh bien, vous vous prosternez et puis on n'en parle plus. Les hommes m'ont dit, mais non, on ne peut pas. On ne peut pas se prosterner devant ton Dieu. Combien à ce moment-là, ils ont dit, bon, roi, nous sommes entre nous. Il n'y a pas le peuple, il n'y a pas les juifs avec nous. Bon, allez, on se prosterne et puis tu nous laisses tranquille. Ni vu ni connu. Non! Ils ont refusé. Mais qu'est-ce qu'ils risquaient, ces gens-là? Eh bien, c'était la mort. Il dit, vous ne savez pas que je peux vous tuer. Il dit, roi, même s'il arrive que nous mourions, parce que nous allons mourir là, sache que nous refusons de nous prosterner devant tes faux dieux. Notre Dieu est le seul, le véritable Dieu. C'est cela. Dieu veut être à la première place dans nos vies. Il veut être à la première place. Demandons au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je t'ai relayé à la seconde place ou à la troisième place? Soyons honnêtes pour dire cela au Seigneur, pour dire, Seigneur, la façon telle que je suis aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus comme j'étais autrefois. Soyons honnêtes pour dire ça à Dieu. Dieu veut être à la première place. Il veut être à la première place. La femme de Job voit Job souffrir. Elle dit, mais tu restes intègre. Regarde la situation. Nous avons tout perdu. Et tu continues à aimer ce Dieu-là. Comment est-ce possible? Un Dieu qui nous a fait tant souffrir. Alors la conclusion qu'elle donne, elle dit, mais maudit Dieu et meurt, puisque tu vas mourir. Job dit à sa femme, tu parles comme un insensé. Quoi donc? N'est-ce pas nous que nous sommes venus sur la terre? Eh bien, c'est de cette manière que nous repartirons. Voici le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. C'est ça. Dieu permettra des événements dans nos vies, comme nous l'avons dit, pour voir notre réaction, pour voir est-ce que c'est lui que nous avons choisi ou nous avons d'autres choses qui sont autour de nous. Nous avons notre petit Dieu. C'est choquant de le dire comme ça, mais c'est une réalité parce qu'on le voit parfois dans l'attitude. Dieu, c'est comme un complément. Servir Dieu, c'est comme, bon, quand j'ai du temps et que j'y pense. Non. Non. Quand Dieu est à la première place, c'est ça le deuxième point. On a dit, le premier point, c'est Dieu veut être à la première place. Le deuxième point, c'est quand Dieu est à la première place dans nos vies, eh bien, la conséquence, c'est quoi? On vit pour lui. On vit pour lui. On vit pour Dieu. Donc, tout ce que je fais, quoi que je fasse, eh bien, c'est d'abord Dieu. Tous les projets que je fais, c'est d'abord en pensant à Dieu. C'est cela. Vivre pour Dieu, c'est quoi? Vivre en pensant à l'honneur de Dieu. Est-ce que mon Dieu est honoré? Lorsque je reste chez moi, je suis fatigué. Alors que le Seigneur me veut à son service, est-ce que Dieu est honoré? Et quand on pense à ça, on se dit non. Alors je me fais violence, je vais le servir. David arrive et il voit les Philistins pendant 40 jours qui mènent la vie dure à Israël. Alors lui, il vient juste pour apporter la nourriture à ses frères. Il voit la situation, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Son frère lui dit, quitte, on connaît ta malice, on te connaît, toi, ton orgueil. Il va voir quelqu'un d'autre, on lui dit, mais regarde ce Philistin-là, un grand guerrier. Il défie Israël aujourd'hui. David se dit, mais c'est pas possible. Comment un humain, aussi grand soit-il, peut défier l'Éternel? Et là, il va voir Saül. Il dit, je vais régler l'histoire de cet homme. Saül lui dit, mais tu es un enfant, mon fils. Il combat depuis longtemps, c'est un guerrier. Mais David n'est pas impressionné par ça. David pense à l'honneur de Dieu. Il dit, mais comment un peuple peut se moquer de l'Éternel? Ce n'est pas possible. Quand Dieu est à la première place, eh bien, on vise l'honneur de Dieu. Ce n'est pas nous. Nous, notre vie ne compte plus. C'est Dieu qui compte. C'est Dieu qui compte. Et David refuse qu'un humain puisse affronter, insulter le peuple de Dieu. Mais en faisant ainsi, il insulte Dieu lui-même. Il refuse cela. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi, que nous puissions manifester. Vivre en pensant à l'honneur de Dieu. Dieu ne peut pas échouer. Quand on voit des situations autour de nous, même qui sont comme des Goliaths, eh bien on se bat dans la prière. Puisqu'on sait que notre Dieu est tout-puissant. C'est cela. C'est cela. Quelle est la place de Dieu dans nos vies? Lorsque Dieu est à la première place dans nos vies, eh bien, nous vivons pour son service. Nous vivons pour le servir. Nous allons lire une histoire dans Luc 14. Luc 14. C'est une parabole. Donc la parabole des conviés. Et le Seigneur nous dit... Un de ceux qui était assis à table, Luc 14, verset 15, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Voilà ce que le Seigneur dit. On nous dit que le maître fait un repas. Eh bien, il convie des personnes, il invite des personnes à venir à ce repas. Généralement, lorsqu'on fait une manifestation, ceux qu'on invite, ce sont des personnes qu'on connaît à minimum. Ce sont des personnes avec qui on a une relation. Ce sont des personnes avec lesquelles on est plus ou moins proche. Et donc ces personnes que ce maître invite, ce sont des gens qui nous sont proches. Et maintenant qu'il les invite, qu'il a besoin d'eux, eh bien on a lu, chacun donne des excuses. En disant, regarde Seigneur, j'ai un champ, il faut que j'aille voir pour évaluer les champs. L'autre, j'ai des bœufs. L'autre, comme par hasard, on parle du mariage. Le mariage, c'est une question qui change beaucoup des gens. Qui change l'attitude de beaucoup. Celle qui était simple ou celui qui était simple, une fois marié, on a l'impression que voilà, c'est le ciel qui... C'est comme si on a atteint le ciel. Chacun se met à donner des excuses, alors que le maître les attend. Lorsque le Seigneur est à la première place, on vit pour le projet de Dieu, on s'intéresse au projet de Dieu. J'ai écouté un témoignage qui m'a été envoyé, et celui qui parlait, il disait, avec un peu ironie, il disait, beaucoup de gens, quand ils ne veulent pas de Dieu ou servir Dieu, parfois même les chrétiens, il dit, eh ben, ils ont des excuses. Alors il dit, ils ont invité, ils ont convié une personne à leur réunion qu'ils font d'habitude, quelqu'un responsable de grandes multinationales, à venir assister. C'est un chrétien, à venir assister aux réunions, à venir assister au temps de prière. Le type dit, oh, j'ai pas le temps, je suis tellement occupé, je suis tellement. Il a donné toutes sortes de raisons. Et cet homme disait, eh ben, ce sont des raisons, excusez-moi le terme, bidon que cette personne donnait. Alors un jour, cette personne va voir le médecin. Le médecin regarde, il fait des examens, il a fait un check-up, un examen entier. Et il reçoit les résultats, il voit cet homme qui est tellement occupé, qui n'a même pas le temps pour sa famille. Il lui dit, ah, il y a une mauvaise nouvelle. C'est que je vois un cancer dans les poumons. Alors le médecin, sans demander l'avis de la personne, bien évidemment, il commence à prescrire des séances de chimio, de toutes ces choses. Et cet homme qui parlait disait avec ironie, il dit, voilà que l'homme qui n'a jamais le temps pour Dieu, pour servir Dieu, pour venir aux réunions, et bien là, bizarrement, à toutes les réunions, il était présent. Partout où il y avait les choses de Dieu, là, bizarrement, il avait le temps. Et bien souvent, nous sommes comme ça. Alors, il conclut en disant, en réalité, quand quelque chose n'est pas important pour nous, forcément, on ne consacre pas du temps pour ça. C'est pas important. Aller prier, je dois gagner 10 000 dollars. Aller m'asseoir pour écouter quelqu'un qui parle. Et là, bizarrement, le type avait le temps pour tout. Il avait le temps pour aller dans les chimios. Il avait le temps pour aller voir son médecin. Il avait le temps pour toutes les réunions, il était présent. Et c'est ce que cet homme conclut, il dit, en réalité, quand quelque chose n'est pas important pour nous, on n'accorde pas du temps pour ça. Mais quand quelque chose a de la valeur, ben on y accorde aussi du temps. On y accorde du temps. Et bien souvent, si on n'accorde pas au Seigneur la première place, l'importance dans nos vies, c'est que, méditons sur, par rapport à cette histoire, où nous en sommes avec le Seigneur. Où nous en sommes avec le Seigneur. C'est cela. Est-ce que le Seigneur a vraiment de l'importance pour nous? Eh bien, s'il a de l'importance, eh bien, ce n'est pas la fatigue. Aucune raison ne sera valable. On voit la réaction de ce maître, il dit, mais comment ça? Et dans Luc, au chapitre 9, verset 59 jusqu'à 61, c'est presque la même histoire. Quelqu'un dit, maître, je te suivrai partout, tu iras. Il dit, attention, les renards ont des tanières, mais le fils de l'homme n'a même pas l'endroit pour reposer sa tête. Il dit, maître, moi je te suivrai. Il dit, viens maintenant et suis-moi. Oh maître, j'ai un problème, il faut que j'aille enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ton père est déjà mort. Il y a des gens qui sont spécialistes dans les cérémonies, dans l'organisation de toutes ces choses-là. Laisse-les organiser ces choses-là. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse assister. Voilà, non. Mais c'est l'ordre de priorité. Et avec l'histoire que je viens de raconter, cet homme avait ses priorités, c'était ses affaires. Mais le jour où il a compris qu'il y a quelque chose qui est plus important que les affaires, c'est la santé, Et le seul qui peut régler le problème de la santé, c'est qui? C'est l'Éternel. Et bien là, bizarrement, il était disponible tout le temps. Disponible tout le temps. La question, c'est quelle est la place que nous accordons au Seigneur? Est-ce que le Seigneur est réellement à la première place dans nos vies? Et bien, s'il est à la première place, et bien, on s'intéresse au projet de Dieu. Il est inconcevable, si on aime vraiment Dieu, de rester chez soi, de se reposer alors qu'on sait qu'il y a des besoins. Je ne suis pas entendu dire ça pour nous dire eh ben, on doit participer aux réunions qui se font aux cellules le jeudi. Non, c'est pas ça. Ça, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de personnel. Mais quand on aime vraiment Dieu, je prends encore l'exemple de David. David est dans son palais royal, construit de marbre. Il se réjouit dans son palais. À un moment, il est triste. Il dit, mais c'est pas possible. Comment moi qui suis humain, je vis dans un grand palais comme ça, et l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, est dans une tente? Il dit non, c'est pas possible. Il dit, si moi qui suis humain, je suis honoré comme ça, eh bien, Dieu doit être encore plus honoré. Il dit, je bâtirai une maison à l'Éternel. Il en parle au prophète Nathan. Nathan lui dit, vas-y, ton intention est tellement bonne et ça montre que tu aimes Dieu. Ensuite, Dieu parle à Nathan pour lui dire, non, ce n'est pas lui qui construira, c'est son fils qui construira le temple. Mais l'exemple de David nous montre quelle est la place qu'il a accordée à Dieu dans sa vie. Quelle est la place qu'il a accordée à Dieu? Et nous, de la même manière, on ne peut pas se réjouir de manière égoïste en sachant que l'œuvre de Dieu doit être faite. Ah ben, si on ne le fait pas, il y aura des personnes qui vont le faire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, l'œuvre de Dieu se fera. Dieu le fera, il fera. Il dit, si les hommes ne veulent pas l'adorer, le glorifier, ben les pierres vont le faire. Mais quelle honte pour nous de voir que Dieu utilise des pierres alors que nous, qui avons été sauvés par grâce, nous pouvons le servir. Quelle honte, quelle tristesse. Quelle est la place que tu accordes à Dieu dans ta vie? Est-ce que les bénédictions, est-ce que le travail, est-ce que ton mari, est-ce que tes enfants, toute excuse que tu pourras sortir, le Seigneur dit non. C'est lui qui doit avoir la première place. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit négliger le reste, non. Mais si réellement le Seigneur est à la première place, il nous donnera aussi l'intelligence de gérer le reste. Mais là, je suis en train de parler d'ordre de priorité. La priorité, c'est Dieu d'abord. C'est cela. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur parle à nos cœurs, ce n'est pas une accusation, moi-même le premier, que nous puissions méditer, dire au Seigneur, si on s'est rendu compte que nous avons peut-être négligé le Seigneur dans notre façon de faire, disons au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que je t'ai négligé. Pardonne-moi parce que lorsqu'il s'agit de te servir, lorsque je reçois le message, je boude dans mon cœur. Il faut être honnête avec Dieu. Seigneur, pardonne-moi, donne-moi les bonnes dispositions afin que je sois dans la joie de te servir. Bien-aimé, c'est un privilège. Comme on nous dit souvent, eh bien, servir Dieu au ciel, il n'y aura pas ça. C'est sur la terre ici qu'on peut servir Dieu. C'est sur la terre qu'on peut, malgré la fatigue, aller chanter, glorifier l'Éternel, distribuer les tracts. C'est sur la terre qu'on peut faire ces choses-là. Mais on le fait non pas par contrainte ou sacrifice, non, parce qu'on aime Dieu. Mais évidemment, il y a un prix. Il y a un prix, il y a la souffrance de la chair, il y a toutes ces, comme l'apôtre Paul le dit, mais il dit, eh bien, ceux qui veulent vivre selon le Seigneur, eh bien, il faut qu'ils acceptent de renoncer à la chair. Voilà. De ne pas se soumettre aux caprices de la chair, parce que les caprices de la chair, il y en aura toujours. La fatigue, on la sentira toujours. Si on doit toujours écouter le fait que ah, tu es fatigué, on ne fera rien. On ne fera rien. Parfois, le Seigneur peut permettre de tels états pour voir est-ce que, malgré notre état, on est prêt à le servir quand même. Est-ce que malgré notre maladie, on est prêt à confesser son nom? Est-ce que malgré notre manque d'argent, on est prêt à dire que Dieu est bon? Dieu permettra des situations dans nos vies pour qu'on puisse voir notre état, dire « Seigneur, ah pardon, pardon parce que j'ai eu la colère envers toi. Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais négligé. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai trouvé que tu me demandes trop et ça m'énerve. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi parce que mon mari a pris trop de place. Seigneur, pardonne-moi parce que ma femme a pris trop de place. Seigneur, pardonne-moi parce que le travail a pris trop de place. » Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole que tu nous donnes ce soir, Seigneur. Moi, le premier, Seigneur. Seigneur, je renouvelle, Seigneur, cet engagement, Seigneur, de vivre pour toi, de te mettre à la première place, Seigneur. Seigneur, je te dis, Seigneur, que je veux que tu sois à la première place de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous nous souvenons de l'histoire de cet homme, Agur, Seigneur, dans Proverbe 30, qui dit, « Seigneur, je te demande deux choses. Éloigne de moi, Seigneur, la fausseté, le mensonge, Seigneur. » Et il dit encore, « Seigneur, ne me donne pas trop de richesses, Seigneur, car en ayant trop de richesses, Seigneur, facilement l'homme tombe dans le piège de te renier, Seigneur. » Il nous est arrivé, Seigneur, de te mettre à la seconde place en privilégiant, Seigneur, les bénédictions que tu nous donnes. Seigneur, nous refusons cela. Seigneur, nous refusons. Nous refusons, Seigneur, d'avoir, Seigneur, des petits dieux, Seigneur, dans nos vies, comme nous l'avons vu ce soir, Seigneur, un jour ou l'autre. Nous choisirons un maître, Seigneur, mais nous, nous voulons, Seigneur. Et nous te disons que tu es le seul maître, Seigneur. Tu es le maître de tout mon être, Seigneur. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Seigneur, agis par ton esprit. Que ce message, Seigneur, puisse nous réveiller, Seigneur. Que ce message puisse réveiller le premier amour pour toi, comme tu l'as dit à cette église d'Éphèse. Que ce message puisse, Seigneur, nous faire réaliser, Seigneur, que te suivre, te mettre à la première place, implique, Seigneur, un sacrifice, Seigneur. Et nous faisons le choix, Seigneur, d'accepter cela. Au nom de Jésus. Délivre-nous, Seigneur, de tous les faux dieux, la fatigue, notre égoïsme, Seigneur, qui fait que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Mets en nous le souci pour toi, pour ton œuvre, Seigneur. Te mettre à la première place, Seigneur. Si tu as la première place, Seigneur, fera que nous aurons le souci. L'œuvre ne sera pas l'œuvre d'un tel ou d'un tel du pasteur. Mais l'œuvre sera l'œuvre de notre Père, de notre Papa. Et puisque c'est l'œuvre de notre Papa, nous nous y intéressons aussi, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous donner la force, Seigneur, de t'aimer, Seigneur. Merci de nous donner la force de faire ce choix, parce que c'est un choix personnel. C'est une décision que nous devons prendre personnellement, Seigneur, de te mettre à la première place, Seigneur. Et nous prions pour que tu nous aides à faire ce choix-là, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, te mettre à la première place. Seigneur, tu vois le péché qui nous enveloppe si facilement. Tu vois combien l'homme oublie très facilement, Seigneur. Nous nous rappelons de l'histoire de Saül qui a oublié, Seigneur, d'où tu l'as tiré une fois qu'il est devenu roi. Seigneur, nous refusons, Seigneur, d'être comme Saül, Seigneur. À cause des bénédictions que tu nous donnes, nous refusons que les bénédictions soient des occasions de chute pour nous, Seigneur. Mais qu'au contraire, les bénédictions nous amènent à nous attacher davantage à toi. Et non pas aux bénédictions. Ainsi, le jour où elles viendront à manquer, Seigneur, nous nous réjouirons parce que tu es toujours là. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.